Bonjour à tous nos auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 et aujourd'hui nous avons une émission très très spéciale pour vous. C'est une émission sur les attentats en Belgique. Donc on a un panel chargé là avec nous dans le studio. Donc le 22 mars dernier, comme vous savez, des attentats ont frappé l'aéroport de Bruxelles et la station de métro Malbec. Donc ces attaques s'inscrivent dans une vague de terreur et les répercussions touchent le peuple belge ainsi que le reste du monde. Face à cette tragédie humaine, la communauté belge reste très soudée et se serre les coudes de plus belle. Ici au Canada, les Belges ont démontré leur solidarité en se rassemblant notamment au Nathan Phillips Square dans le sillage des attentats. Aujourd'hui, une question ne cesse de surgir. Comment réagir face à ces événements? Nous en discuterons dans quelques instants avec nos invités. Donc comme j'ai dit, un panel très chargé. C'est des acteurs phares de la communauté belge au Canada. On va faire un petit tour de table. Donc on a tout d'abord Monsieur André Van der Heijden. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bien, merci.
Oui, donc Monsieur Van der Heijden, qui est le vice-président et le directeur des opérations de la Belgian Canadian Business Chamber, donc BCBC, qui est la chambre de commerce belge au Canada. Nous avons aussi monsieur Christian Fressigne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez bien aussi?
Oui, merci.
Oui. Donc vous êtes vous le vice-président de la BCBC?
Tout à fait.
C'est ça. On a aussi madame Anne Dollendorf.
Bonjour.
Bonjour.
Ravie d'être ici.
Ah, ben, on est très contente de vous avoir aussi, qui est consultante en communication de marketing.
C'est ça.
Et on a aussi Magali Labbé qui est déjà venue nous voir à Choc FM. Magali qui est coordinatrice de projet chez Franco Fierté.
Exactement.
Bonjour Magali, bonjour. Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui, et finalement, on a aussi monsieur Franck Mouhari qui est le délégué commercial pour l'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. C'est l'AWEX, il me semble.
Oui, c'est bien ça. Bonjour à tout le monde.
Bonjour, monsieur. Donc, et aussi, on va aussi recevoir plusieurs intervenants par téléphone. Nous aurons son Excellence Raoul Delcorde, l'ambassadeur de la Belgique au Canada. Nous allons aussi parler avec Maître Xavier Van Overmeer.
Voilà.
Overmeer, voilà, qui est le chef régional de commerce international à Danton LLP. Et finalement, on va aussi parler avec Patrice Malaccord et nous allons aussi rejoindre Margot Obuano. Donc voilà un panel chargé là pour l'émission et je sais qu'on a beaucoup beaucoup de choses à se dire, plein de choses dont on va parler. Mais juste avant d'entamer la discussion, nous allons retrouver son Excellence Raoul Delcorde qui est l'ambassadeur de la Belgique au Canada et il va nous faire une déclaration sur les événements.
Eh bien, en tant qu'ambassadeur de Belgique au Canada, je peux dire que j'étais particulièrement touché par les marques de solidarité que j'ai enregistrées ces derniers jours de la part de tant d'amis canadiens, de tant de Canadiens, même beaucoup de Canadiens que je ne connais pas personnellement, et qui, d'une manière ou d'une autre, ont témoigné de leur soutien. Ce soutien a été également exprimé par le Premier ministre Trudeau, comme vous le savez, qui, à 8h du matin, le jour des attentats, envoyait déjà un tweet de sympathie à la Belgique. Plus tard, que ce soit au Parlement fédéral, dans les parlements des provinces, des minutes de silence ont été observées, avant un match des sénateurs d'Ottawa, et dans bien d'autres occasions. Alors, bien sûr, pour nous autres Belges, c'est important de pouvoir ainsi ressentir le soutien, l'empathie même que nos amis canadiens éprouvent à l'égard de la tragédie qui s'est abattue sur nous. Ça, c'est la première chose que je voulais mentionner. La seconde, évidemment, c'est que les Belges relèvent la tête, les Belges restent debout et ne céderont pas aux terroristes. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité du pays et pour remettre les choses en place. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, tout fonctionne à peu près normalement à nouveau à Bruxelles, hormis l'aéroport qui doit encore subir quelques réparations d'urgence pour au moins pouvoir être en partie fonctionnel dans les prochains jours. Enfin, un troisième élément que je voulais souligner aussi, c'est que nous savons que nos amis canadiens ont également connu des cas de radicalisation et que vous avez développé, en particulier, je le sais, à Montréal, des organismes qui s'occupent de la déradicalisation. Et nous autres Belges, nous avons beaucoup à apprendre de vous dans ce domaine. Au Canada comme en Belgique, il y a des communautés musulmanes et il y a malheureusement quelques éléments, quelques-uns dans ces communautés qui choisissent le mauvais chemin. Et là aussi, donc, je pense que Canadiens et Belges peuvent s'entraider pour ramener ces personnes vers le respect d'autrui, le respect de nos valeurs. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette intervention. Je vais me retourner vers notre palette d'invités et je vais commencer un peu à vous poser une question parce que là, c'est dans le vif du sujet. Les attentats ont lieu il y a une semaine, aujourd'hui. Oui. Comment réagir face aux attentats? Tout d'abord, quel est votre sentiment face à ces attentats?
Alors, dans un premier temps, je pense que nous avons tous été outragés par ces événements. Par un attentat qui vise autant d'innocents et pour une cause quelconque. Mais en même temps, on est arrivé à un point dans notre société où, malheureusement, on n'est plus surpris par des telles réactions. Et pour un peu, ça, c'est le plus surprenant, c'est peut-être combien peu on est surpris par des actes pareils de nos temps.
Oui, au-delà, je dirais au-delà du choc, de la tristesse, de l'incrédulité. On se dit, comment ça peut arriver? Malheureusement, comme André, je dirais, oui, mais c'est là. C'est là, et c'est là presque partout, et c'est presque tout le temps. On ne peut rien y faire. On est choqué, on est obligé de se rendre à l'évidence.
Oui, pour moi personnellement, c'était aussi une grande tristesse, parce qu'au fond, on a toujours cru que... On a été surpris... Mais finalement, on aurait dû s'en douter que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Bon, maintenant, c'est arrivé, j'ai parlé à la famille, c'est la tristesse, on est loin, parce que finalement, à la fin du jour, nous, on est ici, mais la famille et les amis, ils sont là-bas. Donc, eux, ils vivent ça. Et nous, pour nous, c'est différent.
Oui, personnellement, j'ai beaucoup ressenti le sentiment d'impuissance et d'éloignement par rapport à mes proches, par rapport au pays en général. C'était difficile de comprendre les événements aussi avec le décalage horaire. On s'est réveillé, tout était déjà enclenché, on a eu un flot d'informations très rapide, on voyait des images, on ne comprenait pas. Et oui, le sentiment d'incompréhension était très fort, dû à l'éloignement aussi.
C'est vrai que le fait d'être loin, j'imagine que c'est pas forcément facile pour vous. Est-ce que tout le monde, votre entourage, tout le monde va bien?
J'ai pas mal de familles qui résident à Bruxelles, Bruxelles-Ville, dans d'autres quartiers. Tout le monde va bien, mais effectivement, nous sommes ici, eux sont là-bas. Et même si on pouvait s'y attendre, même si les autorités parlaient de risque d'attentat, quand ça arrive, eh bien, dans un premier temps, on n'y croit pas. On pense qu'on pourrait revenir en arrière, peut-être qu'on a mal compris. Bon, on voit les images, ça semble évident. On ne peut pas revenir en arrière. Pourtant, pendant un certain temps, dans nos esprits, enfin dans le mien en tout cas, il y a un certain flottement. On espère qu'il y ait une grande exagération, que finalement il y ait beaucoup de verres cassés, mais qu'il ne se soit rien passé. Mm-hmm. Et puis le temps passe, on se rend compte que c'est la tragédie de grande ampleur.
Mm-hmm. Oui. Et puis en plus, j'imagine le fait de retrouver des stations de métro que je suis sûr vous connaissez tous. Ou bien
absolument.
Vous êtes tous déjà allés à l'aéroport. C'est quelque chose que... Des lieux que vous avez l'habitude de fréquenter, j'imagine.
Oui, moi aussi. Je suis de Bruxelles, j'ai de la famille qui habite Bruxelles. Il y a un de mes cousins qui habitait jusqu'à assez récemment dans le quartier de Malbec, donc de la station de métro qui a été touchée. D'ailleurs, le meilleur ami d'un de mes cousins était sur le train qui précédait celui attaqué. Franck, il parlait là justement des images qu'on a vues répandues de par le monde. Ça se trouve qu'un de ceux qui a été le plus répandu, c'est un individu, un gars assez grand comme ça, avec sa jambe dans un bain de sang. Ben, c'était un connaissance d'école. Mmh. C'est un gars avec qui j'ai été à l'école, qui, d'après les nouvelles que j'ai entendues, ça a pris deux opérations pour enlever la plupart des éclats de sa jambe, de sa cuisse. Il y en a qui lui resteront à vie. Mmh. Nous avons aussi, d'ailleurs, une membre de la chambre de commerce qui a été à l'aéroport, elle était à 100 mètres des explosions, des attaques, et qui, d'ailleurs, n'est toujours pas remise. Elle est toujours un peu sous le choc de cela, d'où, d'ailleurs, son absence aujourd'hui avec nous. Parce que Donc, je crois que de près ou de loin, on connaît tous quelqu'un qui a été touché par ces attaques. Oui, et on connaît, comme vous dites, Zaventem. Moi, j'ai pris l'avion là, je ne sais combien de fois. Malbec, à un moment, je traversais cette station tous les jours.
Donc, vous dites que c'est pas. Donc, ce qui est difficile, c'est d'être loin. Mais comment a réagi la communauté belge ici? Et puis, même la communauté francophone aussi a un peu réagi. Comment vous avez senti cette réaction ici?
Je dirais que j'ai été agréablement surpris de voir la rapidité, la réaction, le support, le soutien. On a été inondés d'emails, de courriels sur le site internet, d'appels téléphoniques. Tout le monde s'est inquiété très rapidement. Magali a organisé une manifestation à laquelle on s'est joint. Vraiment une réaction spontanée, rapide, qui rappelait celle qu'on avait vécue en novembre après les événements de Paris. La solidarité est très forte. Et ça, vraiment, ça vous met du baume au cœur.
Le Centre francophone de Toronto, par exemple, nous a tout de suite contactés pour voir si un support était nécessaire pour la communauté francophone belge, pour toutes les personnes qui pouvaient se trouver en Belgique à ce moment-là. Ça a été extrêmement rapide et c'est comme ça que c'est efficace.
Oui, on a tout de suite ressenti la solidarité, l'unité, très rapidement, malheureusement dans la douleur, mais je veux dire... Il y a eu la solidarité avant la colère, parce que je pense qu'on est tous un peu en colère avec ce qui se passe. Voilà, on ne comprend pas, mais on reste unis, même si on est loin, on a envie de montrer qu'on est là aussi avec le pays.
Et je me dirais que ça ne s'est pas limité à la communauté francophone de Toronto, ça s'est répandu à travers la communauté torontoise. D'ailleurs, lors de notre vigile le mardi passé, bien que... Il y a eu forcément Rob Ford qui était c'était le même jour. Le maire de Toronto, John Tory, il a pris le temps de sortir, nous rejoindre à notre vigile. Il a pris parole aussi d'ailleurs. On a eu énormément de support de la ville de Toronto et du bureau du maire pour justement cette vigile. Oui, avec les drapeaux à demi-main, le signe de Toronto qui a été mis aux couleurs belges autant qu'ils le pouvaient. Apparemment, ils n'ont pas l'option de faire le noir, donc ils ont mis un blanc très très foncé. Mais nous avons eu ce sentiment, la tour CN aussi d'ailleurs, qui s'est mis aux couleurs belges, comme tant de monuments à travers le monde.
C'était assez touchant, moi aussi, j'ai trouvé. Surtout que moi, je travaille dans les médias, donc je travaille beaucoup avec des journalistes canadiens. Et dès le matin, j'avais déjà des premiers messages des journalistes qui disaient « On est avec vous, avec le peuple belge ». J'ai trouvé ça très, très touchant. De la communauté canadienne aussi.
C'est vrai que c'est impressionnant de voir une communauté, enfin le monde entier, parce que finalement c'est le monde entier qui se mobilise pour montrer son soutien à la Belgique. Alors Magali, vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a quand même de la colère. Un petit peu de couleur, mais qu'est-ce que vous tous, là, je vous demande, comment vous réagissez? Qu'est-ce qui vous frappe, en fait, dans les faits de ces événements?
C'est la violence des faits, les lieux touchés. L'aéroport, c'est quand même une porte sur le monde. C'est par là que transitent les gens qui viennent en Belgique, qui partent de Belgique. Il y a beaucoup de sentiments qui passent par un aéroport, mais je ne pensais pas avoir le sentiment de peur et de terreur comme ça, de cette manière. C'est ça qui m'a le plus frappé, c'est les endroits touchés. Le métro, c'est... le lieu de passage des étudiants, des gens qui vont travailler, ils touchent à la vie quotidienne finalement et c'est ça qui moi personnellement m'a beaucoup frappé.
Oui, dans un premier temps, il y a effectivement une certaine colère à ce qu'ils s'y attaquent à la vie quotidienne comme ça. Avec le recul, je dois dire que ce qui m'a frappé pas mal dans les faits, c'est finalement combien peu il y avait de blessés. Dans cette attaque, on pense à Paris quelques mois plus tôt, où il y en a 130 morts et je ne sais plus combien de blessés dans les attaques. Finalement, on a eu, avec le recul, on peut reconnaître qu'on a eu un peu de chance qu'il n'y a eu que 34 morts et un peu moins de 200 blessés. Et avec les méthodes qu'ils ont employées et les heures et les lieux qu'ils ont choisis, on peut même se demander comment est-ce qu'on a échappé aussi belle. Et notez, je dis ça en ouais. ayant un connaissance qui a été victime à l'aéroport, en ayant une membre de notre communauté ici à Toronto qui était dans les dans à l'aéroport et qui en est traumatisée. Mais on reste.
Ça reste un attentat d'extrêmement grande envergure. Bien sûr, ça pourrait toujours être oui. moins, ça peut toujours être plus. Il se fait que c'est, le plus grand attentat qui ait jamais eu lieu en Belgique au cours des décennies et des décennies qui viennent de s'écouler. Mm-hmm. Donc, dans des points de passage, comme on l'a dit, les grands points de passage, ben, c'est en numéro un l'aéroport où tout le monde est passé, hein, surtout si on habite à l'étranger, tout le monde. Et les lignes de métro, il n'y en a pas 36 à Bruxelles, tout le monde passe par là.
Oui.
Donc, oui. Ce qui met en colère aussi, c'est que il y avait une certaine insouciance de la part de l'Organisation Générale en Belgique de la sécurité, c'est-à-dire que, bien sûr, on craignait qu'il y ait des attentats, les autorités en ont parlé, les journalistes en ont parlé, des gens qui enquêtent sur place parlaient d'un grand risque d'attentat, mais sans pouvoir le définir, bien entendu. Quand, où, comment exactement, ce n'était pas possible. Ce qu'il y a, c'est que l'appareil sécuritaire en Belgique était plutôt adapté à une période calme. La Belgique est un pays avec une image, brave gens, calme, pas trop bien organisé, mais on fait plutôt confiance aux gens. À 5 heures, il n'y a plus trop de policiers, tout est calme. Mmh. S'il faut faire la file, par exemple, au Canada, si on est à l'aéroport et qu'on doit faire la file et ça dure non pas 10 minutes, mais ça dure 1 heure et demie, ben, tout le monde va rester calme. On se dit qu'il y a une bonne raison. En Belgique, pas trop, on va dire, bon, ben, on nous fait attendre, c'est pas bien, je veux passer, de toute façon, il arrivera rien. C'est toujours la grande idée d'utiliser la dérision en se disant, bon, ben, de toute façon, ça arrivera chez les autres, mais nous, les braves gens, il n'arrivera rien. Alors, un peu plus d'organisation, un peu plus d'enquête sur place, essayer de lutter un petit peu contre l'omerta qu'il peut y avoir dans certains quartiers, ben, ça aurait peut-être apporter de meilleurs résultats. Parce qu'effectivement, quand on a affaire à des kamikazes, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, le type, une fois qu'il est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Donc, il y a surtout un énorme travail de prévention. Je ne sais pas trop comment ça se fait, mais ça doit faire sûrement de manière très professionnelle. Ça coûte sans doute pas mal d'argent, ça demande beaucoup d'implication sur place. Mais en tout cas, le kamikaze, quand il est lancé, c'est trop tard. Donc, beaucoup de choses à faire. Donc, ce qui met en colère, c'est que se dire que peut-être ça pouvait être arrêté, évité.
Je vais essayer de tempérer ce que tu dis, Franck, un tout petit peu. Ben, une chose, ayant été pratiquement toute ma vie, pratiquement habitué à voir des attentats, donc ça existe depuis toujours. Vécu à ça quand j'étais enfant avec les attentats pendant la guerre d'Algérie, après il y a eu les événements de la Palestine plus tard. Les Français sont habitués à avoir les attentats tout le temps. Et malheureusement, on doit réaliser que quel que soit le dispositif de sécurité, d'information, de collecte d'information, de surveillance policière, on est pratiquement dans l'impossibilité de déjouer les attentats. Et c'est en cela que je disais plus tôt qu'on doit pratiquement s'habituer à vivre maintenant avec la possibilité qu'un attentat peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment, dans n'importe quel pays. Je ne dirais pas qu'on ne doit rien faire pour lutter contre le terrorisme, mais malheureusement, quels que soient les efforts déployés, on s'aperçoit qu'ils arrivent quand même. Et je ne veux pas être défaitiste, je veux dire simplement ça. Il faut dire, ça va arriver, on garde la tête haute, on est attaché à nos valeurs, on y reviendra sans doute plus tard, mais c'est une chose qui peut arriver.
Bien sûr, ça peut toujours arriver, mais pouvoir réduire peut-être de 90%, c'est mieux que de ne rien faire.
Tout à fait.
Donc, ça me semble clair. Et quand tu parlais d'attentats dans le passé, dans le monde, il se fait qu'ici, on a affaire à des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie, entre guillemets, le kamikaze. Ben, c'est par la prévention qu'on peut essayer de l'arrêter. C'est comme ça. Donc, ben, l'éliminer totalement, non. S'habituer sûrement pas. Être prêt à encaisser, être prêt à réagir, prendre des mesures efficaces dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la prévention, de la sécurité.
Mais je vais revenir sur un point, ce que tu as fait, Franck, quand tu parlais de l'omerta dans certains quartiers. Et effectivement, Bruxelles, c'est une ville assez cosmopolite, assez multiculturelle, telle que, un peu comme Toronto. Et je crois qu'il est important, en allant de l'avant, que les différentes communautés commencent à travailler ensemble, qu'on mette de côté les petites différences et qu'on arrête de se chamailler entre soi pour des petits issues qui finalement n'ont pas une grande importance, et qu'on commence à travailler ensemble pour qu'il n'y ait pas de communauté qui se sent mise à l'écart ou exclue, et donc où il pourrait avoir ce sentiment croissant de exclusion, voilà, qui est finalement ce que se nourrissent ces groupes.
Mm-hmm. Ouais, c'est là, par exemple, il y a un quartier, c'est Molenbeek, il me semble, dont les gens parlent beaucoup en ce moment.
Oui, je peux peut-être un petit peu en parler déjà, dans la mesure où, avant de commencer à travailler à l'étranger, les trois dernières années que j'ai passées en Belgique, je les ai passées à Molenbeek.
Ah, ok.
Alors, effectivement, on ne peut pas dire que c'est un quartier de Bruxelles. Disons qu'en fait, Bruxelles est divisée en plusieurs communes. Les communes, c'est un petit peu comme si à Toronto, il y avait un maire différent pour Little Italy, pour Chinatown, mm-hmm. pour Financial District, pour Fashion District. Ça ferait beaucoup de maires pour une zone assez limitée. Bruxelles, donc, c'est 19 communes avec ses 19 maires différents. Ça représente 1 300 000 habitants. Donc, quand on dit Molenbeek, c'est pour situer plutôt géographiquement, sachant qu'il y a un maire qui gère cette commune. En fait, si vous circulez dans Bruxelles, vous ne pourrez pas voir le passage de Molenbeek à Bruxelles-Ville, à Schaerbeek ou à Ixelles. Mm-hmm. C'est une zone extrêmement urbanisée avec quelques parcs, mais on ne voit pas la différence. Quant à, pour revenir au sol de Molenbeek, donc c'est une commune assez grande, et en fait, les zones où, disons, qu'il y a eu le plus de problèmes, où on dit que des terroristes présumés se sont cachés, c'est 3-4 pâtés de maison. Mmh. Ailleurs, on verra pas la différence par rapport au restant de la ville dans son ensemble.
Okay. Donc comment vous expliquez qu'autant de gens parlent de ce quartier comme...
Mais c'est-à-dire il faut donner un nom pour bien le localiser. Donc mm-hmm. géographiquement, effectivement, c'est dans cette commune-là, c'est mm-hmm. dans un certain endroit de cette commune. C'est plus facile à localiser. Mm-hmm. Molenbeek, je vous dis, j'y ai habité agréablement, c'est pas l'enfer. Mm-hmm.
Mais il y a aussi ce problème d'intégration. Si mm-hmm. tu dis, André, il faut inclure les communes ou les gens d'une, que ce soit Molenbeek, que ce soit Schaerbeek, que ce soit... Mais ça date déjà des décennies. Comme moi, j'étais jeune, oui. J'étais étudiante à Bruxelles. On avait déjà des communes qu'on n'y allait pas. Et ce problème d'intégration, si on veut faire quelque chose contre, ça va prendre des décennies. Ça ne va pas se faire d'ici un an ou deux ans. Ça, c'est un problème qui date déjà depuis toujours.
Donc, pour avoir la perspective de quelqu'un qui se trouvait sur place au moment des événements, nous allons retrouver Margot Obuano.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ben, ça va, et vous ?
Oui, ça va. Donc, Margot, vous étiez, vous, sur place. Enfin, vous étiez en tout cas en Belgique au moment des événements. J'imagine que vous êtes encore un peu secouée, bouleversée ?
Ah, je suis encore complètement sous le choc. Mmh. Enfin, j'étais chez des amis près de... J'étais à Schaerbeek. J'étais loin de tout ça en étant très proche à la fois. Mmh. Mais donc, ce qui s'est passé, bah, c'est que tout le monde est resté enfermé pendant ce jour-là. Et ensuite, moi, personnellement, je vivais dans la crainte dans cette ville que j'adore. Mmh. Et je me sentais pas chez moi, envahie.
Ouais. Et là, vous venez de revenir au Canada. Ça veut dire que vous avez passé quand même une semaine. La semaine après les événements, vous l'avez passé sur place.
Tout à fait.
Et là, comment...
À Bruxelles même.
À Bruxelles, d'accord. Donc, et là, avant de quitter, quelle était l'atmosphère ? Est-ce que c'était toujours aussi tendu ou ça s'était un peu calmé ? Les gens étaient plutôt dans la peur, dans la tristesse, toujours.
Moi, j'ai trouvé ça... je pense que les gens ont été très déçus de ce mouvement hooligan qui a eu lieu dimanche soir à la place de la Bourse, qui, pour moi, est juste un manque de respect total. Donc, on ne sait pas où sont les priorités des gens, alors que la police est déjà assez occupée comme ça. Ils ont dû se charger de ces 600 personnes qui sont venues, pour moi, perturber le deuil de beaucoup de gens qui se trouvaient et le recueillement qui se retrouve à la place de la Bourse. Ils ont annulé la marche également ce dimanche. Donc c'est ça, on comprend pas très bien si c'est si grave, si c'est pas si grave. On est en alerte 4, puis on descend en alerte 3, on annule les marches. Enfin, je trouve que c'est ça qui est encore plus angoissant. Alors, moi, c'est ce que je pense.
Okay. Bah, merci, Margot.
Merci.
Est-ce que vous pensez que... Parce que là, on parle un peu de la réaction des gens sur place. Vous qui avez un lien avec la Belgique directement, j'imagine que vous avez de la famille, des amis là-bas. Maintenant, la réaction des gens sur place, quelle est leur vision pour le futur? Est-ce qu'ils sont plutôt découragés? Ou ils se disent qu'il faut... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ils voient la chose?
Et d'abord, les gens ont réagi en Belgique en restant, je veux dire, assez calmes et assez professionnels. Je parle professionnel dans le sens où je travaille des entreprises belges tous les jours. Pendant les 2-3 jours où il n'y a plus de transport en commun, où se véhiculer en voiture était difficile, tout le monde travaillait chez soi, les personnes restaient joignables. Puis ensuite, on sont retournés au bureau pour qu'ils devaient retourner au bureau ou à l'usine ou continuer à travailler chez elles. Mais on continuait des conversations qu'on avait commencées pour le business quelques jours ou quelques semaines auparavant. Okay. Il n'empêchait pas qu'on prenait toujours quelques instants pour parler de la situation. Mais en quelque sorte, il faut aller de l'avant. Et donc, dans mes conversations téléphoniques, j'avais jamais quelqu'un qui prenait une demi-heure pour faire des conversations qui ne mènent à rien, en quelque sorte. Mmh. On fait son boulot, on fait son job, et puis on réfléchit sur le futur. Mais tu posais la question tout à l'heure, que faire maintenant? Beaucoup de gens ne savent pas trop. Mmh. Un des éléments qui est un peu technique, un peu brut, c'est peut-être un petit peu plus de professionnalisme dans le système sécuritaire. Mmh. Je parlais tout à l'heure d'un petit peu de laisser aller, mais c'est pas vraiment un laisser aller qu'il y avait, c'était une sorte d'insouciance. À partir du moment où on pense qu'il va rien arriver, je veux dire, si on se trouve au fin fond de la campagne, ben généralement, ben on peut laisser même sa voiture ouverte, on abandonnera son téléphone à gauche, à droite, il va rien arriver. Mais il se fait qu'en Belgique, même dans les villes, même à Bruxelles, bon, comme il n'arrive rien, pourquoi s'embêter avec des contrôles un petit peu partout? Maintenant, on pense qu'il faudra peut-être y arriver.
Ouais. Mais quand on voit en même temps qu'il y a, par exemple, si on prend l'exemple du Pakistan ou de la Côte d'Ivoire, dans un parc d'enfants ou bien à une plage, c'est dur maintenant de se dire, de mettre des normes de sécurité parce qu'on ne sait pas en fait où finalement. Où
est-ce qu'on... Oui, alors c'est vrai... Comme disait Christian tout à l'heure, bon, on peut pas annihiler toutes les possibilités d'attentats, mais on peut leur créer des obstacles. Mmh. Bon, je viens de passer jusqu'à il y a peu 8 ans de ma vie en Turquie. Bon, et là-bas, la sécurité, c'est important parce qu'il y a des risques. Alors, est-ce que ça empêche les attentats? Tous, non. Mais je peux vous dire qu'on ne rentre pas dans une banque, dans un centre commercial ou à l'aéroport aussi facilement qu'on le faisait à Zaventem ou dans n'importe quel centre commercial. Centre commercial, en Belgique, il n'y a pas de contrôle. Ben, maintenant, faudra-t-il en faire? Je ne sais pas trop comment il faudra gérer tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait absolument rien. Et je venais d'un pays, la Turquie, où il y avait absolument tout. Mm-hmm. Ça n'a pas empêché les attentats, certains attentats, mais ça a peut-être limité de 90%. Mm-hmm.
Pour renforcer ce que vient de dire Franck, ça crée la réaction, en fait, il y a deux types de réactions. Il y a une réaction, celle des pouvoirs publics, où le niveau de sécurité est monté de 3 à 4 au maximum, où l'état d'urgence a été installé en France, où il y a de plus en plus d'arrestations, il y a beaucoup plus de travail qui se fait, parce qu'on s'aperçoit que c'est là, c'est pas un risque qui peut arriver, c'est là, et ça peut être là demain. Donc il y a cette première réaction des pouvoirs publics, des services de sécurité augmentés, c'est une très bonne chose pour les gens. La deuxième réaction qui est excessivement importante, c'est la réaction des gens, de la majorité de la population, qui est une réaction qu'on l'appelle « j'ai pas peur, je suis Bruxelles, je suis autre chose ». Cette réaction est vraiment spontanée. Et c'est les gens qui crient et qui hurlent « vous ne toucherez pas à notre démocratie ». Ça va pas nous atteindre. Nos valeurs sont plus importantes. Vous essayez de nous mettre à genoux, vous n'y arriverez pas. Et je crois que ça, c'est vraiment une réaction fondamentale et capitale dans notre société où les valeurs de démocratie sont importantes et ne peuvent pas être annihilées par ces quelques exaltés, je dirais, comme étant des actes abjects. J'ai peut-être lancé un nouveau débat là.